Chapitre 3. Mia. 1. Il était une fois dans les années 1960, avant que le monde ne change, une femme du nom d'Odetta Holmes, une jeune femme charmante et tout à fait impliquée dans la vie sociale, belle et riche, et très disposée à dénicher un copain ou une copine de même profil. Sans en être le moins du monde consciente, cette jeune femme partageait son corps avec une créature beaucoup moins charmante, nommée Detta Walker. Detta, elle, n'en avait rien à foutre du copain ou de la copine. Rhea Ducorus n'aurait pas renié Detta, elle aurait vu en elle une sœur. De l'autre côté de l'entre-deux-monde, Roland de Gilead, le dernier pistolero, avait amené cette femme divisée jusqu'à lui, et il en avait créé une troisième et bien meilleure, bien plus forte que les deux précédentes. C'est de cette femme qu'Eddie Dean était tombé amoureux. Elle l'avait pris pour mari et portait donc le nom de son père à lui. Ayant raté les prises de bec féministes des décennies ultérieures, elle l'avait fait le plus joyeusement du monde. Si elle ne se faisait pas appeler Susanna Dean avec autant de fierté que de joie, c'est seulement parce que sa mère lui avait enseigné que l'orgueil précède la chute. Et voilà qu'apparaissait une quatrième femme, née de la troisième à une autre époque de tension et de changement. Elle se moquait éperdument de Detta et de Susanna. Elle se moquait de tout, sauf de ce petit gars qui était en route. Il fallait nourrir ce petit gars nouveau venu. La salle de banquet n'était pas très loin, c'était ce qui comptait. C'était tout ce qui comptait. Cette nouvelle femme, tout aussi dangereuse à sa manière que pouvait l'être Detta Walker, s'appelait Mia. Elle ne portait le nom d'aucun homme, seulement ce mot qui, en haut-parlé, signifiait « mère ». 2. Elle descendait lentement les longs couloirs de pierre vers la salle où se tenait le festin. Elle passa devant les chambres de la ruine, les niches et les nefs vides, les galeries oubliées aux appartements déserts et désertés. Quelque part dans ce château se dressait un vieux trône, baigné de sang ancien. Quelque part des échelles menaient à des cryptes aux murs recouverts d'ossements, dont les dieux seuls connaissaient la profondeur. Pourtant, il y avait de la vie ici, de la vie et de la nourriture riche. Mia le sentait aussi sûrement qu'elle sentait ses jambes sous elle et l'étoffe de tous ses jupons superposés qui frofrotaient. De la nourriture riche. Longue vie à vous et à vos récoltes, comme disait l'adage. Et elle avait tellement faim. Bien sûr, ne mangeait-elle pas pour deux? Elle déboucha sur un grand escalier. Un son lui parvint, affaibli mais puissant. Le tempo régulier des turbos à transmission lente enterrés en dessous des cryptes les plus profondes. Mia s'en moquait totalement, tout comme elle se moquait de North Central Positronics qui les avait construits et les avait mis en route des dizaines de milliers d'années auparavant. Elle se moquait des ordinateurs dipolaires, des portes, des rayons et de cette tour sombre au milieu de toutes choses. Ce qui comptait, c'était les odeurs. Ces odeurs qui flottaient jusqu'à ses narines, riches et merveilleuses. Le poulet et sa sauce, les rôtis de porc en habit de couenne rissolés, les quartiers de bœuf où perlait le sang, les meules de fromage humide, les gigantesques crevettes de Calafondi, comme des virgules oranges et rebondies. Les poissons éventrés aux yeux vides, leurs entrailles débordant de sauce, les grands pots de jambalaya et de fanata, le grand caldo largo de l'extrême sud. Si on rajoutait à ça 100 fruits et 1000 douceurs, on n'en était encore qu'au début, aux amuse-bouches, aux premières bouchées de l'entrée. Mia descendit l'escalier central en courant, effleurant la rampe de sa paume soyeuse, pianotant de ses petites mules sur les marches. Une fois, elle avait rêvé qu'un homme horrible l'avait poussée sous un train souterrain et qu'elle avait eu les jambes coupées à la hauteur des genoux. Mais les rêves, c'était idiot. Ses pieds étaient bien là, portant ses jambes, n'est-ce pas? Oui. Et aussi ce bébé dans son ventre, le petit gars qui voulait qu'on le nourrisse. Il avait faim. Et elle aussi.
3.
Au pied de l'escalier, un large couloir pavé de marbre noir poli courait sur 25 mètres jusqu'à une grande porte à double battant. Mia pressa le pas dans cette direction. Elle voyait son reflet flotter sous elle et les flambeaux électriques qui scintillaient dans les profondeurs du marbre comme des torches sous-marines. Mais elle ne vit pas l'homme qui surgit derrière elle, se glissant le long des courbes majestueuses de l'escalier, non pas en escarpins, mais portant de vieilles bottes usées. En guise de tenue d'apparat, il portait un jean délavé et une chemise en chambray bleu. Sur son flanc gauche pendait un pistolet à crosse en bois de santal patiné. L'étui était retenu par une bride de cuir brut. Il avait le visage mat, ridé et tanné. Sa chevelure était noire, bien que parcourue de liserés blancs. Mais c'était ses yeux qui frappaient le plus. Ils étaient bleus, froids et fixes. Detta Walker n'avait jamais craint aucun homme, pas même celui-là. Mais elle avait eu peur de ses yeux de tireur. Il y avait un vestibule devant la haute porte. Il était pavé d'un damier de marbre rouge et noir. Au mur lambrissé pendaient les portraits jaunis de vieux seigneurs et de leurs dames. Au centre se dressait une statue en marbre rose et chrome entrelacée. On aurait dit un chevalier errant brandissant ce qui ressemblait à un sicou ou à une courte épée au-dessus de sa tête. Bien que le visage fût presque lisse, le sculpteur n'avait fait que suggérer les traits, Mia savait de qui il s'agissait, elle le savait très bien. Ce ne pouvait être que lui. « Je te salue, Arthur l'aîné, » dit-elle en le gratifiant de sa plus belle révérence. « Je te prie de bénir tout ce dont je m'apprête à disposer pour moi et mon petit gars. Bonsoir à toi. » Elle ne pouvait lui souhaiter de longs jours sur cette terre car ses jours à lui, et il en allait de même pour presque tous ceux de son espèce, s'en étaient allés. Aussi préféra-t-elle porter la main à ses lèvres souriantes et lui envoyer un baiser. Ayant ainsi sacrifié aux usages, elle entra dans la salle à manger. Elle mesurait 60 mètres de long sur 30 mètres de large. Des torches électriques en fourreau de cristal en jalonnaient les deux longueurs. Des centaines de chaises entouraient une gigantesque table de bois de fer chargée de mets chauds ou froids. En face de chaque chaise était posée une assiette blanche à fin liseré bleu, une assiette pour les grandes occasions. Les chaises étaient inoccupées, les grandes assiettes vides ainsi que les verres, bien que le vin destiné à les remplir fût disposé dans des seaux en or, tout le long de la table, frappé et prêt à servir. Tout était comme elle l'avait imaginé, comme elle l'avait vu dans ses rêves les plus précieux et les plus précis. Tout était comme elle l'avait toujours trouvé, encore, et ainsi qu'elle le trouverait tant qu'ils en auraient besoin, elle et le petit gars. Où qu'elle se fût trouvée, ce château n'était pas loin. Et même s'il y avait une vague odeur d'humidité et de boue ancienne, quelle importance! Si on entendait des bruits de galopade dans les ombres sous la table, le fait des rats ou même des fouines, pourquoi s'en soucier? Au-dessus de la table, tout n'était que luxe et lumière, fumées exquis et fruits mûrs, prêts à être cueillis. Les ombres sous la table pouvaient bien faire à leur guise, ce n'était pas ses affaires, non, pas du tout. « Voici venir Mia, fille de personne !» lança-t-elle gaiement à la salle silencieuse, avec ses cent arômes de viande et de sauce et de crème et de fruits. « J'ai faim ?» Et je serai nourri. De plus, je nourrirai mon petit gars. Si l'un d'entre vous y trouve à redire, qu'il s'avance, qu'il se montre bien, que je le vois et qu'il me voit. Personne ne s'avança, bien entendu. Ceux qui avaient jadis festoyé en ces lieux avaient disparu depuis longtemps. Il n'y avait plus à présent que le rythme sourd et endormi des turbos à transmission lente, et aussi ces galopades assourdies et déplaisantes du monde de sous la table. Derrière elle, le pistolero demeurait silencieux à observer. Et Et ce n'était pas la première fois. Il ne voyait pas de château, mais il la voyait. Elle, il la voyait très clairement. « Kindimo, consent !» cria-t-elle. Elle appuya la main sur son ventre qui commençait à poindre, à s'arrondir. Puis, dans un éclat de rire, elle conclut « Si fait qu'il en soit ainsi, voici venir Mia au festin. Qu'il leur fasse honneur à elle et aux petits gars qu'elle porte en elle, qu'il leur fasse grand honneur. » Et elle festoya, mais pas dans un lieu ni dans une de ses assiettes. Elle détestait ses assiettes, celles pour les grandes occasions, bleues et blancs. Elle ne savait pas pourquoi ou elle s'en moquait. Ce qui l'intéressait, c'était la nourriture. Elle longea la table comme une femme se pavanant devant le buffet le plus grandiose au monde, saisissant des morceaux entre ses doigts et les faisant sauter dans sa bouche ouverte, arrachant parfois la viande tendre et chaude sur l'os avant d'envoyer le bout de carcasse sur le plat de service. Une fois ou deux, elle rata son but et les morceaux de viande roulèrent sur la nappe en lin blanc et imprimant des traînées de sauce comme un mouchoir sur lequel on aurait saigné du nez. L'un de ses rôtis roulants renversa une saucière. Un autre fit voler en éclats un plat de service en cristal rempli de confiture de groseille. Un troisième roula tout au bout de la table et bascula dans le vide. Et Mia entendit le morceau se faire traîner sous la table. Il y eut une brève querelle ponctuée de petits cris perçants, suivie d'un gémissement de douleur quand quelque chose planta ses dents dans quelque chose d'autre. Puis le silence, de courte durée cependant, et bientôt brisée par le rire de Mia. Elle essuya ses doigts graisseux sur son corsage, très lentement, savourant cette façon qu'avaient les taches de sauce mêlée de se répandre sur la soie ruineuse, savourant la courbe saillante de ses seins et le contact de ses tétons sous le bout de ses doigts, rêches, durs et excités. Elle longea lentement la table jusqu'au bout, se parlant à elle-même, avec toutes sortes de voix différentes, criant une petite discussion chez les fous. « Comment ça va, chérie ?»«
Ça va super, merci de tout cœur de prendre des nouvelles, Mia. Tu crois vraiment qu'Oswald travaillait seul quand il a descendu Kennedy ?»«
Jamais de la vie, trésor. C'était un complot de la CIA depuis le début. Eux ou ces sales blancs de milliardaires du croissant de l'acier en Alabama. »«
Bobbingham ?»« Alabama, chérie, c'est pas vrai. » »«
Tu as écouté le nouveau disque de John Baez ?»«
Mon Dieu, oui. Elle a une voix d'ange, non ?»«
J'ai entendu dire qu'ils vont se marier avec Bob Dylan. »
Et ainsi de suite, et patati, et patata.
Roland entendit la voix cultivée d'Odetta mêlée aux accents rudes et aux blasphèmes ou en couleur de détain. Il perçut aussi la voix de Susanna et beaucoup d'autres. Combien de femmes dans sa tête? Combien de personnalités formées ou demi-formées? Il la regarda se pencher au-dessus des assiettes vides, invisibles, et des verres vides, invisibles aussi, mangeant directement dans les plats de service, mâchant chaque trouvaille avec la même délectation gourmande, son visage devenant progressivement brillant, le corsage de sa robe, qu'il ne pouvait voir mais qu'il sentait, s'assombrissant là où elle s'essuyait les doigts, pinçant l'étoffe, se l'aplatissant sur les seins. Impossible de se méprendre sur ces gestes-là. Et, après chaque pause, avant de reprendre son exploration, elle saisissait l'air devant elle et envoyait une assiette qu'il ne voyait pas sur le sol, à ses pieds, ou bien de l'autre côté de la table, contre un mur qui devait exister dans sa rêverie.
« Tiens !» cria-t-elle avec la voix pleine de défis de Detta Walker. « Prends ça, espèce de sale vieille dame bleue! J'ai encore fait de la casse! J'ai foutu en l'air ta saloperie d'assiette! Alors, ça te fait quoi ?» « Ça te fait quoi, maintenant ?»
Puis, passant à la place suivante, elle lâchait un petit rire en cascade, charmant mais contenu. Elle demandait des nouvelles de leur fils, patati patata, comment s'adaptait-il à Morehouse, et quelle chance merveilleuse d'avoir une école aussi magnifique pour les gens de couleur. Si, 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 vraiment, merveilleuse, merveilleuse. Et votre mère, ma chère, oh, je suis tellement désolé, nous prions tous pour son rétablissement. Et tout en parlant, elle se penchait au-dessus d'une autre assiette imaginaire. Elle attrapait à pleine main une grosse terrine remplie d'œufs de poisson noir et luisant et de rondelles de citron. Puis elle se fourrait la tête dedans comme un porc plongeant son groin dans l'auge. Elle barfrait. Et elle relevait la tête et un sourire sage et délicat se dessinait sous l'éclat des torches électriques qui faisaient ressortir les œufs noirs comme de la sueur noire sur sa peau brune, lui mouchetant les joues et le front, se nichant au coin de ses narines comme des croûtes de vieux sang séché. Ah oui, il me semble que nous avançons un grand pas. Des gens comme ce Balkanar sont arrivés à leur déclin désormais. Et la meilleure revanche pour nous, c'est qu'ils le savent. Et alors elle envoyait voler la terrine par-dessus son épaule comme un joueur de volley devenu fou, et des œufs de poisson venaient se coller dans ses cheveux. Roland les voyait presque. Et quand la terrine explosait contre la pierre, son expression polie, à la « Quelle fête fantastique, vous ne trouvez pas ?» se tordait pour laisser place à Detta Walker, la harpie aux babines retroussées, celle prête à hurler « D'ivoire, sale vieille dame bleue, ça fait quoi si tu veux essayer de te fourrer ce caviar de mon cul dans ta chatte desséchée ?» « Surtout, vas-y, te gêne pas, ça te ferait des sensations, tu peux me croire !» Et elle passait à l'assiette suivante, puis à la suivante. Elle festoyait dans la grande salle du banquet. Elle se nourrissait, et elle nourrissait son petit gars. Ne se retournant pas une fois vers Roland, ne se rendant pas compte une seule seconde que ce lieu, à proprement parler, n'existait même pas. 4. Eddie et Jake n'étaient pas parmi les priorités de Roland lorsque tous les quatre, tous les cinq en comptant ôté, se couchèrent après s'être repus de boules rêves. Ils s'étaient concentrés sur Susanna. Le pistolero était pratiquement certain qu'elle irait se balader cette nuit encore, et cette fois encore il la suivrait. Pas pour voir ce qu'elle mijotait, ça, il le savait d'avance. Non, sa première préoccupation était de la protéger. Plus tôt dans l'après-midi, vers l'heure où Jake était revenu avec son chargement de nourriture, Susanna avait commencé à manifester des signes que Roland connaissait. Sa diction s'était faite sèche et brève, ses mouvements un peu trop saccadés pour être gracieux, et elle avait eu tendance à se frotter la tempe ou un point au-dessus du sourcil gauche, comme si elle ressentait une douleur à cet endroit. Eddie ne voyait-il pas les signes ? Roland se le demandait. Eddie faisait un piètre observateur quand Roland l'avait rencontré, mais il avait beaucoup changé depuis. Et puis il était amoureux d'elle. Amoureux! Comment pouvait-il ne pas voir ce que Roland voyait, lui? Les signes n'étaient pas aussi flagrants que sur la plage au bord de la mer Occidentale, quand Detta s'apprêtait à bondir et à arracher violemment le contrôle à Odetta, mais ils étaient là, voilà qui est certain, et pas très différent avec ça. D'un autre côté, la mère de Roland avait autrefois un dicton qui disait « L'amour parfois trébuche ». Peut-être Eddie était-il trop proche d'elle pour voir. Ou bien, il ne veut pas voir, se dit Roland. Il ne veut pas affronter l'idée qu'il faille peut-être revivre tout ça, c'est-à-dire la mettre face à elle-même et à sa nature divisée. Sauf que cette fois-ci, ça n'avait rien à voir avec elle. Roland le soupçonnait depuis un bout de temps déjà, avant même leur palabre avec les habitants de River Crossing, en fait, et à présent il le savait. Non, ça n'avait rien à voir avec elle. Alors il était resté allongé là, à écouter leur respiration qui ralentissait, tandis qu'un à un, il sombrait. Ôté, puis Jake, Susanna, Eddie en dernier. Enfin, pas vraiment le dernier. Roland entendait assourdi, très assourdi, le murmure d'une conversation de l'autre côté de cette colline là-bas au sud, de ceux qui les suivaient et qui les observaient, rassemblant leur courage avant de se faire connaître, probablement. Roland avait l'ouïe fine, mais pas assez fine pour saisir leurs paroles au vol. Il y avait eu environ une demi-douzaine d'échanges à mi-voix, avant que quelqu'un ne siffle violemment pour imposer le silence. Ils se turent, et on n'entendit plus que le reniflement bas et intermittent du vent dans le faîte des arbres. Roland se tenait allongé, immobile, scrutant l'obscurité où ne brillait pas une étoile, attendant que Susanna se lève, ce qu'elle finit par faire. Mais avant ça,
Jake, Eddie et Otte partirent Vaadash. 5. C'est de Vanet, le précepteur de cour en ces temps anciens de leur jeunesse, que Roland et ses semblables tenaient ce qu'il y avait à savoir de Vaadash. Ils avaient d'abord formé un quintet, Roland, Alain, Cuthbert, Jamie et Wallace, le fils de Vanet. Wallace, farouchement intelligent mais toujours dans un état maladif, avait succombé à la maladie de la chute, parfois surnommée le mal du roi. Il n'avait dès lors plus été que 4 sous la forme d'un vrai quatête. Vanet le savait lui aussi, et cela participait sans doute à son chagrin. Cort leur avait appris à naviguer en suivant le soleil et les étoiles. Vanet leur avait appris à se servir de la boussole, du cadran et du sextant, et leur avait enseigné les rudiments mathématiques nécessaires à leur usage. Cort leur avait appris à se battre. À travers l'histoire, les problèmes de logique et des séminaires sur les vérités universelles, comme ils les appelaient, Vanet leur avait montré comment ils pourraient parfois éviter de se battre. Cort leur avait appris à tuer s'ils le devaient. Vanet, avec sa patte folle et son sourire doux et un peu absent, leur avait fait comprendre que la violence ne faisait qu'aggraver les problèmes beaucoup plus sûrement qu'elle ne les résolvait. Il l'appelait la chambre vide, dans laquelle tous les sons se trouvaient modifiés par l'écho. Il leur avait enseigné la physique, ce qu'on en savait, et la chimie, ce qu'il en restait. Il leur avait appris à finir les phrases qui commençaient par « Cet arbre ressemble à… » ou par « Quand je cours, je me sens heureux comme un… » ou encore « On n'a pas pu se retenir de rire tellement… » Roland détestait ces exercices, mais Vanet tenait bon et ne le laissait jamais décrocher. « Tu as une imagination très pauvre, Roland, » lui avait dit un jour le précepteur. Roland devait avoir 11 ans à l'époque. « Et je ne te laisserai pas la sous-alimenter et l'appauvrir encore. » Il leur avait appris les 7 cadrans de la magie, refusant de révéler s'il croyait en aucun d'eux, et Roland croyait se rappeler que c'était en aparté d'une de ses leçons que Vanet avait mentionné Vaadash. Ou peut-être qu'on capitalisait, peut-être que c'était Vaadash. Roland n'en était pas sûr. Il se rappelait que Vanet avait parlé de la secte Mani, ses grands voyageurs. Et n'avait-il pas cité aussi l'arc-en-ciel du magicien? Roland croyait se rappeler que si, mais par 2 fois, il avait eu le cristal rose de l'arc-en-ciel en sa possession, une fois enfant et une fois adulte, et bien que les 2 fois il eût voyagé dedans, la 2e fois avec ses amis, il ne l'avait jamais emmené Vaadash. Ah, mais comment l'aurais-tu su? Se demanda-t-il. Comment aurais-tu pu le savoir, Roland, quand tu étais à l'intérieur? Parce que Cuthbert et Alain le lui auraient dit, voilà comment. En es-tu sûr? Une émotion aussi étrange qu'indéfinissable serra la poitrine du pistolero. Était-ce de l'indignation? De l'horreur? Peut-être même un sentiment de trahison? Quand il comprit que non, il n'en était pas sûr. Tout ce qu'il savait, c'est que la boule l'avait mené très profond à l'intérieur de lui-même et qu'il avait eu de la chance de pouvoir en ressortir. « Il n'y a pas de boule ici, » se dit-il. Et à nouveau, il entendit cette autre voix, la voix sèche et implacable de son vieux précepteur boiteux qui n'avait jamais vraiment fait le deuil de son fils unique, lui répondre, toujours avec les mêmes mots. « En es-tu sûr, pistolero? En es-tu certain ?» 6. Tout commença par un crépitement grave. Roland pensa d'abord qu'il venait du feu de camp. L'un d'eux avait dû mettre des branches de pin vertes que les braises avaient fini par atteindre, et ce son provenait des aiguilles qui se consumaient. Mais le bruit s'amplifia, se transformant en une sorte de grésillement électrique. Roland se redressa et scruta le feu mourant. Ses yeux s'élargirent et les battements de son cœur s'accélérèrent. Susanna tournait le dos à Eddie, et elle s'était un peu écartée de lui aussi. Eddie avait tendu le bras, et Jake avait fait de même, si bien qu'il se tenait par la main. Et, sous les yeux de Roland, ils se mirent à pâlir, à se désintégrer en une série de pulsations tremblotantes. Il arrivait la même chose à Oté. Quand ils eurent disparu, ils furent remplacés par une sorte de halo gris qui reproduisait approximativement la forme et la position de leur corps, comme si quelque chose leur gardait leur place dans le monde réel. Chaque fois qu'ils revenaient, on entendait ce grésillement. Roland voyait leurs yeux rouler sous leurs paupières closes. Ils rêvaient, mais pas seulement. C'était Varadash, le passage entre deux mondes, que les manies étaient censées maîtriser, et que certains fragments de l'arc-en-ciel du magicien étaient censés vous aider à accomplir, éventuellement contre votre gré, un fragment en particulier. Il pourrait être pris entre deux et tomber, se dit Roland. Vanet nous avait dit ça aussi. Il disait qu'aller Varadash était un grand péril. Qu'avait-il dit d'autre ? Roland n'eut pas le temps de se le rappeler car au même moment, Susanna s'assit, fit glisser les capots de cuir que Roland lui avait confectionnés sur ses moignons de jambes et se hissa sur son fauteuil roulant. Quelques secondes plus tard, elle roulait vers les arbres anciens au nord de la route. C'était à l'opposé de l'endroit où se tenaient leurs espions. C'était toujours ça de pris. Roland resta un moment immobile, interdit. Mais il finit par entrevoir clairement ce qu'il avait à faire. Il ne comptait pas les réveiller tant qu'ils étaient en état de Varadash. Cela leur ferait courir un risque monstrueux. La seule chose à faire était de suivre Susanna comme les autres nuits et espérer qu'elle ne s'attirerait pas d'ennui. « Tu pourrais aussi réfléchir à la suite des événements. » À nouveau, la voix sèche et magistrale de Vanet. À présent que son vieux précepteur était de retour, il avait visiblement l'intention de rester un petit moment. « Le raisonnement n'a jamais été ton point fort, pourtant il va bien falloir que tu t'en serves. Bien sûr, il faut attendre que tes visiteurs se fassent connaître, que tu sois sûr de ce qu'ils veulent, mais pour finir, Roland, il faudra bien que tu te décides à agir. Mais réfléchis bien auparavant. Le plus tôt sera le mieux. » Oui, le plus tôt était toujours le mieux. Il y eut un nouveau grésillement, puissant. Eddie et Jake étaient de retour, ce dernier tenant Oté au creux de son bras. Puis, ils disparurent de nouveau, ne laissant derrière eux qu'une faible lueur d'ectoplasme. Et puis quelle importance, son boulot, c'était de suivre Susanna. Quant à Jake et Eddie, il y aurait de l'eau, si Dieu le voulait. Imagine que tu reviennes et qu'il ne soit plus là. Ça arrive, Vanel a dit. Qu'est-ce que tu lui diras à elle si elle se réveille et qu'ils ont disparu tous les deux, son mari et son fils adoptif? Ça n'était pas le moment de réfléchir à tout ça de toute façon. Le problème pour l'instant, c'était Susanna. Comment protéger Susanna? 7. De vieux arbres au tronc énorme jalonnaient le côté nord de la route à intervalles raisonnables, leurs branches s'entremêlaient parfois, créant comme une voûte suspendue. Mais au niveau du sol, il y avait toute la place nécessaire au passage du fauteuil roulant de Susanna, et elle se déplaçait à vive allure, serpentant parmi les grands arbres de fer et les pins, descendant sur un tapis odorant de paillis et d'aiguilles de pin. Pas Susanna, ni Detta, ni Odetta non plus. Celle-ci se fait appeler Mia. Pour Roland, elle pouvait bien se faire appeler la reine des jours verts du moment qu'elle revenait saine et sauve et que les deux autres étaient toujours là à son retour. Il sentit monter un parfum plus vif et plus frais, un parfum de verdure, des roseaux et des algues. Accompagné d'une odeur de vase, du martèlement lourd des grenouilles, du « ouh, ouh » sarcastique d'un hibou et des éclaboussures quand quelque chose sauta dans l'eau. Suivi par un cri perçant, quand quelque chose mourut, lui ou sa proie. Les broussailles surgissaient du sol, d'abord clairsemées, puis omniprésentes. Les frondaisons s'éclaircissaient, les moustiques et les mites gémissaient, des mouchetons zébraient l'air,
L'odeur de marécage se fit plus prégnante. Les roues du fauteuil n'avaient pas laissé de traces sur l'humus. Lorsqu'il fit place à ce paillasson hirsute, Roland commença à la suivre grâce aux brindilles cassées et aux feuilles déchirées qu'elle laissait sur son passage. Puis, lorsqu'elle atteignit un terrain à peu près plat, les roues s'enfoncèrent dans la terre de plus en plus molle. 20 pas plus loin, il vit du liquide suinter dans les ornières. Mais elle était trop maligne pour se laisser embourber, trop rusée. 20 pas au-delà des premiers signes de suintement, il tomba sur le fauteuil, abandonné. Sur l'assise était posé son pantalon et sa chemise. Elle avait pénétré dans le marécage, toute nue, à l'exception des embouts de cuir qui couvraient ses moignons. Au-dessus de mares d'eau stagnante flottaient des rubans de brouillard. Des monticules herbeux saillaient, çà et là. Sur l'un d'eux, ligoté à un tronc mort placé à la verticale, se tenait ce que Roland prit d'abord pour un ancien pantin. En se rapprochant, il constata qu'il s'agissait d'un squelette humain. Le front du crâne avait été fracassé vers l'intérieur, et un triangle d'ombre était planté entre les deux orbites béantes. Une telle blessure avait de toute évidence été infligée par quelque massue de guerre primitive, et le cadavre, ou son arme errante, avait été laissé là pour marquer la frontière du territoire d'une tribu quelconque. Ils étaient sans doute tous morts depuis longtemps, ou ils avaient changé de décor, mais prudence était mère de sûreté. Roland dégaina un de ses pistolets et prit la suite de la femme, avançant de monticule en monticule, serrant les dents, quand une douleur soudaine lui pinçait la hanche droite. Il lui fallut toute sa concentration et toute son agilité pour réussir à la suivre. D'abord parce qu'elle n'avait pas les scrupules de Roland à rester aussi sèche que possible. Elle était nue comme une sirène et se déplaçait comme telle, aussi à l'aise dans la gadoue et le limon que sur la terre ferme. Elle rampait par-dessus les monticules les plus gros, glissait dans l'eau entre les bosses, marquant parfois une courte pause pour arracher une sangsue. Dans l'obscurité, marche et glissade semblaient se fondre d'un seul mouvement serpentant, sinueux et troublant. Elle avança ainsi sur environ 300 mètres, dans le marais qui suintait de plus en plus, le pistolero obstinément sur ses talons. Il faisait le moins de bruit possible, bien qu'il se demandât si c'était bien nécessaire. La partie d'elle capable de voir, de sentir et de penser était à des années-lumière de là. Elle finit par s'arrêter en appui sur ses jambes tronquées, s'accrochant de chaque côté à des buissons pour se maintenir en équilibre. Immobile, elle tendait le cou au-dessus de la surface noire d'une mare. Impossible pour le pistolero de dire si cette mare était large ou non. Les bords s'en perdaient dans la brume. Pourtant, il y avait de la lumière, une sorte de rayonnement faible et flou qui semblait monter dessous la surface de l'eau même, émanant peut-être de troncs immergés pourrissant lentement. Elle se tenait là, scrutant du regard cette mare perdue dans ses bois sous leur croûte de boue, comme une reine scrutant... Scrutant quoi? Que voyait-elle? Une salle de banquet? C'est ce qu'il en était venu à croire. Presque à voir. C'était un murmure qui passait de son esprit à elle, à son esprit à lui, et ce murmure concordait avec ce qu'elle disait et faisait. Cette salle de banquet, c'était le moyen ingénieux qu'avait imaginé son esprit pour tenir Susanna à l'écart de Mia, tout comme il avait tenu Odetta à l'écart de Detta pendant toutes ces années. Mia devait avoir toutes sortes de raisons de garder son existence secrète, mais la plus importante, c'était sans doute cette vie qu'elle portait en elle. Le petit gars, comme elle l'appelait. Puis, avec une célérité qui le fit sursauter, même s'il l'avait déjà vu faire, elle se mit en chasse, glissant dans un silence sinistre, sans une éclaboussure, d'abord le long de la mare, puis dedans. Roland la contemplait avec une expression d'horreur et de désir mêlé, tandis qu'elle se taillait un chemin au milieu des ajoncs, au-dessus et entre les touffes d'herbe. À présent, au lieu d'arracher les sangsues de sa peau et de les lancer au loin, Elle se les enfournait dans la bouche comme des bonbons. Les muscles de ses cuisses ondulaient sous la peau. Cette peau brune brillait comme de la soie humide. Lorsqu'elle se retourna, cette fois-ci Roland s'était caché derrière un arbre, se fondant aux ombres. Il vit clairement que ses seins avaient gonflé. Le problème, bien sûr, ne se limitait pas au petit gars. Il fallait aussi prendre Eddie en compte.
« Mais qu'est-ce qui t'arrive, bon sang, Roland ?» l'entendait-il déjà répliquer. « C'est peut-être notre enfant. Je veux dire, tu ne peux pas être certain que ça n'est pas le nôtre.
Ouais, je sais qu'elle a été prise par ce truc pendant qu'on tirait Jack d'affaires, mais ça ne veut pas forcément dire que... »
Et ainsi de suite, blablabla, comme aurait dit Eddie lui-même. Tout ça pourquoi? Parce qu'il l'aimait et qu'il voudrait garder l'enfant de leur union. Et parce que la dispute était aussi naturelle à Eddie Dean qu'à d'autres le simple fait de respirer. Cuthbert était pareil. Dans les roseaux, la main de la femme nue jaillit soudain et éprona une grenouille de bonne taille. Elle serra le poing et la grenouille explosa, faisant gicler entre ses doigts des boyaux et des poignées d'œufs miroitants. La tête éclata à son tour. Mia la leva à hauteur de sa bouche et engouffra avidement l'animal dont les pattes arrière d'un vert laiteux s'agitaient convulsivement. Elle lécha le sang et les lambeaux de chair luisante accrochés à ses doigts. Puis elle fit mine de jeter quelque chose par terre et hurla
« Prends ça, espèce de sale vieille dame bleue !»
d'une voix grave et gutturale qui fit frissonner Roland. C'était la voix de Theta Walker. Theta, au plus fort de sa folie et de sa méchanceté. Une seconde après, elle était repartie en chasse. Ce fut le tour d'un petit poisson, puis d'une autre grenouille, puis d'une prise de choix, un radeau qui poussait de petits cris, se contorsionnait et essayait de mordre. Elle l'écrabouilla et se le fourra dans la bouche en entier, patte comprise. Une minute plus tard, elle pencha la tête en avant et régurgita les déchets, une masse torsadée de poils collés et d'éclats d'os. Alors montrez-lui ça, en partant du principe que Jake et lui reviendraient de cette aventure dans laquelle ils étaient embarqués, bien entendu, et tu n'auras qu'à lui dire, je sais que les femmes ont des envies bizarres quand elles portent un enfant, mais Eddie, ça ne te paraît pas un petit peu trop bizarre? Regarde-la qui chasse dans les roseaux et la vase comme une espèce d'alligator humain. Regarde-la bien et dis-moi que c'est pour nourrir ton enfant qu'elle le fait. Ou n'importe quel enfant humain. Mais ça ne l'empêcherait pas d'argumenter, Roland le savait bien. Ce qu'en revanche il ne savait pas, c'était comment Susanna elle-même réagirait quand il lui dirait qu'elle avait dans le ventre une chose qui avait des envies incontrôlables de viande crue, le tout au beau milieu de la nuit. Et comme si cette histoire ne suffisait pas, maintenant il y avait le Vahadash et ses inconnus qui les suivaient. Pourtant c'était bien là le cadet de ses soucis. En fait, il trouvait leur présence presque réconfortante. Il ne savait pas ce qu'il voulait et pourtant il le savait. Il les avait déjà rencontrés à maintes reprises. Mais pour finir... ils voulaient tous la même chose. 8. À présent, la femme qui se faisait appeler Mia se mit à parler tout en chassant. Roland avait beau être coutumier de cette partie-là du rituel aussi, elle le pétrifiait toujours autant. Il la regardait bien en face, et pourtant il avait toujours du mal à croire que tant de voix différentes puissent venir d'une seule et même gorge. Elle se demanda à elle-même comment elle allait. Elle se répondit qu'elle allait très bien, merci beaucoup. Elle parla d'un dénommé Bill, ou peut-être Bull. Elle demanda des nouvelles de la mère de quelqu'un. Elle cita un endroit appelé Morehouse. Puis, d'une voix profonde et râpeuse, une voix d'homme sans aucun doute, elle se dit qu'elle n'allait ni à Morehouse, ni dans aucune autre maison. Ce qui la fit rire d'un rire rauque. Aussi devait-il s'agir d'une blague. Elle se présenta plusieurs fois, comme elle l'avait fait les autres nuits, en tant que Mia, un nom que Roland connaissait bien depuis ses jeunes années à Gilead. Là-bas, c'était presque un nom sacré. Elle fit deux fois la révérence, soulevant des jupes invisibles avec une grâce qui pinça le cœur du pistolero. C'était à Mégis qu'il avait vu ce genre de révérence pour la première fois, quand avec ses amis Alain et Cuthbert, ils avaient été envoyés par leur père. Elle repartit en direction de la salle. Mare, toute humide et luisante. Elle y resta sans bouger pendant 5 minutes, puis 10. Le hibou poussa son cri de salut moqueur.
« Ouh !»
Et comme en réponse, la lune sortit un instant de derrière les nuages pour jeter un œil à la scène. Dans la seconde, le camouflage d'un petit animal fut réduit à néant. Il essaya de filer à côté de la femme. Elle le prit au piège avec une maîtrise impeccable et plongea le visage dans son ventre palpitant. Il y eut un crissement mouillé suivi de déchirements et de mastications. Elle brandit ce qui restait de l'animal dans le clair de lune, ses mains et ses poignets bruns assombris par le sang, puis elle le déchira en deux et l'avala. Elle éructa bruyamment et se replongea dans l'eau d'un coup de rein. Cette fois-ci, Roland entendit un grand éclaboussement et il sut que le banquet prenait fin pour ce soir. Elle avait même mangé une partie des moucherons, les attrapant au vol sans effort. Tout ce qu'il espérait, c'est que ce qu'elle avait englouti ne la rendrait pas malade. Jusqu'ici, rien de bien grave. Pendant qu'elle se nettoyait sommairement, essuyant le sang et la boue, Roland revint sur ses pas, ignorant les douleurs croissantes dans sa hanche et se déplaçant avec toute sa ruse habituelle. Par 3 fois déjà, il avait assisté à ce genre de scène, et il lui avait suffi d'une fois pour constater que les sens de la femme se trouvaient effroyablement aiguisés. Il s'arrêta près de son fauteuil, vérifiant qu'il n'avait laissé aucune trace aux environs. Il vit une empreinte de botte, l'effaça, puis jeta une poignée de feuilles par-dessus pour faire bonne mesure. Pas trop, cependant. Le mieux était l'ennemi du bien. Une fois l'opération terminée, il retourna vers la route et vers leur campement, sans plus se dépêcher. Elle aussi aurait un peu de ménage à faire avant de rentrer. Que verrait Mia au moment de nettoyer le fauteuil de Suzanne? Une espèce de petit char motorisé? Peu importe. L'important, c'était sa grande intelligence. S'il ne s'était pas réveillé pour faire de l'eau une des nuits précédentes, il n'aurait sans doute jamais eu connaissance de ses expéditions de chasse, et pourtant il était censé être fin pour ce genre de choses. « Pas aussi fin qu'elle, asticot !» Maintenant, comme si le fantôme de Vanet ne suffisait pas, c'était au tour de Corte de lui faire la leçon. « Elle te l'a déjà prouvé, pas vrai ?» Oui, elle lui avait prouvé qu'elle était intelligente comme 3 femmes, et voilà qu'une 4e entrait en scène. 9. Quand Roland fit apparaître devant lui la trouée dans les arbres, la route qu'il suivait et l'endroit où ils avaient établi leur campement pour la nuit, il inspira lentement et profondément, 2 fois, ce qui avait pour but de le calmer et qui ne marcha pas très bien. « Le lot, si Dieu le veut, se rappela-t-il, pour les grandes choses de ce monde, Roland, tu n'as pas à voix au chapitre. » Voilà une vérité qui n'était pas facile à accepter, surtout pour un homme lancé dans une quête telle que celle-ci. Mais il avait appris à vivre avec. Il inspira une nouvelle fois, puis sortit de la forêt. Il relâcha l'air en un long soupir de soulagement en voyant Eddie et Jake allongés près du feu éteint, profondément endormis. La main droite de Jake, celle que tenait Eddie quand le pistolero les avait quittés pour suivre Susanna, s'enroulait à présent autour de Hoté. Le bafouilleux ouvrit un œil et fixa Roland, puis il le referma. Roland ne l'entendit pas venir, mais il la sentit. Il s'empressa de se coucher, roula sur le côté et s'enfouit le visage dans le creux de son bras. Et dans cette position, il put observer le fauteuil roulant, qui sortait de sous les arbres. Elle l'avait nettoyé rapidement, mais efficacement. Roland ne vit pas une seule tache de boue. Les rayons scintillaient sous le clair de lune. Elle gara le fauteuil au même endroit que la veille, s'en extirpa avec sa grâce habituelle et alla se coucher auprès d'Eddie. Roland la regarda s'approcher de la forme endormie de son mari avec quelque inquiétude. Quiconque aurait rencontré Detta Walker aurait ressenti la même, se dit-il, car cette femme qui se faisait appeler mère ressemblait étrangement à cette Detta. Allongé dans l'immobilité la plus totale, comme s'il était suspendu dans un sommeil profond, Roland s'apprêtait à bondir. Alors, elle écarta les cheveux du front d'Eddie et l'embrassa au creux de la tempe. La tendresse de ce geste en dit long au pistolero. Il pouvait dormir tranquille. Il ferma les yeux et laissa les ténèbres l'emmener.